Marc Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Mandarine Gestion. On va parler avec vous, bien sûr, de cette situation sur les marchés financiers. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de sell-off, hein,
Malheureusement.
comme disent les anglo-saxons. On n'était pourtant pas parti sur ce type d'année 2016, quand on avait vu l'année 2015, qui effectivement une performance pas mauvaise sur les marchés actions. Qu'est-ce qui a changé entre décembre 2015, janvier 2016, février 2016? On a l'impression que rien ne va plus.
Alors en fait, c'est l'inverse de 2015. Vous vous souvenez, l'année avait commencé dans l'euphorie pour terminer dans un peu de doute quand même, hein. Et puis en fait, au cours de l'été, on avait eu quelques inquiétudes sur la Chine. Et puis en fin d'année, un peu plus sur la Chine et puis sur la pérennité de la croissance américaine. Et donc en janvier, de façon pour moi surprenante, voilà, on a entériné ça. C'est l'inverse de 2015. On commence dans le stress maximum. Est-ce qu'on terminera dans l'euphorie? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est l'inverse.
On voit tous les secteurs qui sont concernés, alors les bancaires, mais d'autres aussi. Sur le plan économique, il n'y a pourtant pas, enfin, il y a pas de nouveauté particulière. Certes, il y a un peu moins de croissance en Chine, mais enfin, il y a toujours une croissance.
Vous avez raison, et c'est notamment ce que nous disent les entreprises. Vous le savez, elles publient leurs résultats annuels en ce moment, et c'est en général accompagné de perspectives. Alors certes, de perspectives à 3-6 mois, mais moi, je ne vois pas, tout secteur confondu, y compris les banquiers, je ne vois pas des gens remettre en cause le scénario de reprise cyclique en Europe. Mais après, vous savez, c'est des phénomènes de poupée russe. La Chine, ça entraîne les matières premières, et puis du coup, ça entraîne un risque sur la croissance américaine, et puis ça entraîne des risques de défaut sur les banques. C'est autoréalisateur, ces scénarios.
Alors, en même temps, jusqu'ici, on parlait des politiques monétaires des banquiers centraux qui pouvaient et qui réussissaient à, je dirais, à tenir ces marchés. Là, ça semble plus être le cas. Ça paraît quand même plus compliqué.
Oui, là aussi, vous avez raison. Il semble qu'on soit arrivé au bout de ce que peuvent faire les banques centrales. D'ailleurs, c'est normal, hein, puisqu'on passe dans des taux négatifs dans plein de pays. C'est d'ailleurs ce que nous dit Madame Yellen. Elle remonte les taux un peu à contre-courant parce qu'elle a envie de normaliser en fait la politique monétaire. Donc oui, il faut malheureusement juste espérer que l'action passée des banques centrales a fait reprendre le cycle, ce qui est encore une fois le scénario le plus probable, hein, malgré les craintes actuelles. Parce que attendre maintenant des banques centrales qu'elles sauvent une fois de plus, la situation semble difficile à imaginer.
Vous parliez des entreprises, justement. Est-ce que vous êtes plutôt conforté par leur discours? Alors, il y a des publications qui commencent, il y en a eu certaines qui sont conformes, d'autres un peu moins. Comment vous voyez, justement, du côté des entreprises, leur situation?
Je suis effectivement conforté parce que j'entends, j'ai beaucoup de contacts des entreprises, je vois effectivement les publications. Alors, à l'exception de quelques secteurs, c'est sûr que vous êtes dans les services pétroliers en ce moment, ça va pas, hein. Mais sinon, encore une fois, tout secteur confondu, on n'a pas de remise en cause du scénario de reprise cyclique. Je vois même des banquiers me dire que les crédits non performants sont en train de diminuer. Il y a une reprise des volumes, alors c'est mou, mais une reprise des volumes de crédits attribués. Donc aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas de remise en cause du scénario de reprise cyclique. Alors juste, les gens qui sont critiques vis-à-vis de tels propos vous diront que les entreprises n'ont pas de capacité de prévision à 2-3 ans, c'est vrai, c'est pas leur boulot. Mais en tout cas, elles ne voient pas de dégradation à court terme de leur activité, c'est pas le cas.
Donc on dirait aujourd'hui qu'il y a une dichotomie entre ce que pensent les investisseurs sur les marchés, ce qu'on voit au jour le jour avec cette espèce de krach larvé, et puis la réalité de la situation des entreprises, puisque la valorisation des marchés, ça représente normalement ça.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, puis à la fin, on revient toujours sur des valorisations et des rentabilités de milieu de cycle, hein, mais selon qu'on y revient dans 3 mois ou dans 2 ans, c'est pas le même scénario. Donc oui, en ce moment, on est vraiment dans un décalage, les boursiers sont en plein stress. Mais encore une fois, le danger de ces trucs-là, c'est que c'est autoréalisateur, hein. Mais on ne voit pas dans l'économie réelle de dégradation qui se rajouterait maintenant au ralentissement chinois qu'on connaît, au pic de croissance atteint aux États-Unis. Tout ça, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire.
Oui, parce qu'on dit aussi que les boursiers anticipent. Donc si là, ils sont en train d'anticiper effectivement, la situation va dégrader dans les mois qui viennent.
Voilà, écoutez, il ne faut pas se boucher les yeux. Vous avez raison. En général, il leur arrive de se tromper. En général, les boursiers anticipent. Et plus que ça, si on veut aller dans le sens de votre argument, les marchés de crédit sont en général assez précurseurs et aujourd'hui, les marchés de crédit sont assez dégradés. Donc, ce n'est pas un contexte agréable et porteur de bonnes nouvelles. Heureusement, les boursiers n'ont pas toujours raison, on l'a vu à de multiples reprises.
Donc ça peut être peut-être un, on va dire un point bas qui arrivera dans plusieurs mois, y compris sur la situation économique, avant qu'il y ait un rebond tout de même en cours d'année. Quoi. C'est peut-être ça qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place.
C'est possible, et puis surtout, comme vous le savez, la bonne nouvelle de marché qui retrace, parce que quand même depuis les plus hauts de l'été dernier, on a fait des moins 25, moins 30 hein, sur les actions européennes. Entre parenthèses, actions européennes qui sont celles qui baissent le plus que les émergents et bien sûr plus que les États-Unis. Donc la bonne nouvelle quand on fait moins 30, c'est qu'il commence de façon certaine à avoir des prix aberrants. Hein, on peut contester les secteurs du pétrole, etc., encore que ça mériterait des commentaires. Mais en tout cas, si vous voulez, des Pernod Ricard, des Bayersdorf qui font de la Nivea ou des AXA, là on a baissé dans des proportions qui font qu'on est vraiment à des prix qui, moi, me semblent attrayants à horizon action.
Oui, c'est ça. Il faut se replacer dans ces périodes-là aussi. C'est peut-être un argument dans un horizon un peu plus long terme. Et regarder ce qui se passe au jour le jour, mais si on peut, en ayant cet horizon d'investissement.
Voilà, et en se disant par ailleurs qu'on est rarement capable d'acheter au plus bas. Même les professionnels n'y arrivent pas, donc a fortiori, quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Puis par ailleurs, alors ça c'est un mauvais argument, mais je le donne quand même, les gens ne savent plus quoi faire de leur argent. Hein. Les placements 10 sans risque ne rapportent plus rien. Donc voilà, c'est sans doute un bon moment, alors sauf à croire à la catastrophe finale, mais vous en conviendrez, elle arrive rarement. C'est sans doute un bon moment pour racheter un certain nombre de papiers qui sont d'ores et déjà très loin de leur valorisation de milieu de cycle.
C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on avait cet avantage rendement sur les actions. On n'avait pas forcément la performance toujours attendue, mais on avait ce rendement. Là, on peut, compte tenu de ce qui s'est passé sur les marchés actions en janvier et février, on peut se dire qu'on a peut-être, on va pouvoir avoir un rendement pour certains titres, mais on aura de la performance, de la valeur elle-même de l'action.
Voilà, le rendement, alors comme vous le savez, le rendement, il ne faut pas regarder le rendement de l'année dernière, il faut regarder la capacité à le distribuer l'année prochaine, donc c'est un exercice plus délicat qu'il n'a l'air, mais oui, on a des rendements qui montent même avec la baisse des cours, et par ailleurs, effectivement, ça ne me semble pas déraisonnable sur ces niveaux-là, au moins pour une grande partie de la cote, d'imaginer qu'on puisse gagner de l'argent à échéance prévisible.
Alors on le sait, les particuliers français sont un peu peur de ces marchés actions. Hein. C'est plus leur. Il y a quelques années de ça, 6 millions d'actionnaires en direct, il y en a peut-être autour de 4 millions. Ils ont un peu délaissé cette partie action. Est-ce que dans des marchés comme ça, il y a une opportunité pour un investisseur particulier qui aurait du cash d'aller investir sur ces marchés actions ?
Alors en fait, les investisseurs français n'ont jamais eu le goût des actions. Quand la période que vous évoquez était due à un accident qui était les privatisations. Hein. En réalité, les Français ne comprennent pas les actions, voire les détestent. Écoutez, moi, j'imagine pas qu'on puisse changer la culture comme ça sur un bon conseil, mais pour moi, c'est clairement oui, la réponse à votre question. Et d'ailleurs, les assureurs qui, pour d'autres raisons, ne veulent plus vendre des fonds en euros, ils poussent. Donc après, dans les produits actions, il y a des produits très exposés au risque directionnel, il y a des produits plus prudents, qu'on appelle flexibles, diversifiés. Mais de rajouter un peu de risque dans le portefeuille maintenant, c'est plus intelligent de le faire qu'au plus haut, hein, c'est toujours pareil. Les Français le feront-ils? On verra.
Merci Marc Renaud.
Merci à vous.